Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici RTWA pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes avec Étienne Loff. Bonjour.
Bonjour.
Étienne, vous êtes ici pour nous annoncer une date de concert qui aura lieu au Château Saint-Ferréol ce samedi 25 août à partir de 20h30. Ça sera une proposition de raga du soir, comme vous le dénommez. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi sera cette soirée ?
Et donc, c'est de la musique de l'Inde du Nord, qu'on appelle aussi musique hindoustani. La musique classique, et donc je joue du bansuri, c'est une flûte traversière en bambou, et je serai accompagné par un joueur de tabla, et aussi par une femme qui joue la tempura, l'instrument à cordes, puisque comme c'est de la musique modale, on entend en permanence le son de ces cordes en arrière-plan. Et donc... on va jouer plusieurs ragas. En général, ça commence par un alap, des longues notes qui mettent dans l'atmosphère de ce raga particulier. Et puis après, il y a une dimension rythmique qui s'installe et une mélodie qui s'inscrit dans un cycle rythmique qui est joué par les tablas. Et ça devient. C'est essentiellement improvisé dans la structure du raga et dans la structure du rythme. Et donc, c'est un dialogue après avec les tablas, et qui va en s'intensifiant au niveau rythmique aussi.
On peut parler de ce premier extrait que vous nous avez joué au studio. Donc, comment ça définit cette musique ?
Là, j'ai joué dans le raga Brindamadi Sarang, puisqu'en fait, les ragas sont associés à un moment de la journée, ou parfois à une saison, pour certains d'ailleurs. Donc là, j'ai joué un petit peu d'alap dans le raga Brindamadi Sarang, qui est un raga de l'après-midi, qui correspond à peu près à l'heure à laquelle on est en train d'enregistrer l'émission.
Alors, on peut peut-être définir ce qu'est un raga, parce que je suis un peu néophyte hein, dans ce style musical. Alors, un raga se définit comment ?
Alors, on peut le voir sous deux aspects. En tant que... individu musical qui a donc sa caractéristique comme un être humain, par exemple. On va pouvoir le définir avec sa taille, la couleur de ses cheveux, son poids, la couleur des yeux, enfin des tas de petits détails. On pourrait faire un portrait robot, mais après, il y a quand même, c'est vivant, donc... il se peut qu'on voit quelqu'un qu'on connaît. Il y a un petit quelque chose de vivant qu'on reconnaît qui fait qu'on sait que c'est cette personne. Donc un raga, c'est comme ça. On pourrait dire très grossièrement, c'est une gamme, quoi. Mais en réalité, il peut y avoir un chemin pour monter, un chemin pour descendre. Il peut y avoir plusieurs ragas qui utilisent les mêmes notes, mais qui vont donner plus d'importance à certaines notes qu'à d'autres. Et puis, si on va plus dans la subtilité, il y a dans la musique indienne ce qu'on appelle les shrutis, c'est-à-dire des positions fines de la hauteur des notes. Et les ragas du matin, en général, ont des shrutis qui sont plus bas. Donc, on peut avoir un raga, par exemple, todi, un raga du matin, qui a les mêmes notes que multani, un raga de la fin de la journée. Mais ça ne sera pas tout à fait la même hauteur des notes. Donc, l'ambiance est tout à fait différente. Donc voilà, c'est subtil, mais alors donc ça c'est le côté individualité du raga. D'ailleurs, on définit aussi un raga comme ce qui colore l'esprit, c'est-à-dire c'est une certaine atmosphère qui est manifestée par ces notes et le caractère dans lequel on va jouer. Et on peut aussi dire un raga, c'est une forme musicale, comme on peut dire une valse ou une sonate ou c'est-à-dire une structure, et donc ça se développe dans le temps avec, en général, un alap au début, c'est-à-dire où on crée l'atmosphère du raga, et c'est hors du temps, et c'est-à-dire on présente les degrés, toutes les notes, progressivement, on déploie tout le raga. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y a une pulsion rythmique qui s'installe, c'est ce qu'on appelle jor. Et on peut subdiviser en d'autres étapes, mais je fais un petit peu plus court. Donc ensuite, quand les tablas commencent, là, c'est ce qu'on appelle le tal, la mesure ou le rythme. Donc là, il y a une mélodie qui s'inscrit dans un cycle rythmique. Et souvent, il y a des rythmes impairs par rapport à... Bon, comme on trouve d'ailleurs dans la musique de l'Est aussi, mais... Et une caractéristique des rythmes indiens aussi, c'est que ça peut être beaucoup plus lent, spécialement quand c'est le chant. Avec la flûte, ce n'est pas le cas. En général, je commence déjà dans un tempo moyen, mais il peut y avoir un cycle où chaque temps, par exemple, un temps, ça peut être... Da. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle vilambit. Alors imaginons ça multiplié par 16, ça fait... C'est très très long, donc ça ouvre, quand on écoute ça, il faut rentrer dans un état aussi tout à fait, on ouvre son esprit à une autre dimension. Et donc, à partir du moment où le tabla commence, ben, ça devient un dialogue en fait entre l'instrument qui improvise et les tablas, et qui s'intensifie jusqu'à une espèce d'apothéose, et on revient à chaque fois, au point de départ, mais il y a une espèce d'accomplissement, un déploiement, et on se retrouve au centre à la fin.
Comment vous avez reçu cette manière de jouer par transmission de jeu, ou alors existe-t-il des textes ou des partitions ?
Il existe sans doute des textes et des méthodes de nos jours, mais c'est vrai que c'est essentiellement une transmission orale. Et ben moi, j'étais déjà musicien, enfin, j'étais attiré par la musique, j'ai appris un peu le piano, j'avais joué de la flûte à bec et j'improvisais sur un piano quand j'étais adolescent, des choses qui n'étaient pas si éloignées, je recherchais des atmosphères comme ça. Et puis un jour, j'ai entendu parler, un ami m'a parlé de l'Inde et de la musique de l'Inde d'une manière qui a vraiment... attiré mon attention, et je jouais quand même déjà de la flûte, à ce moment-là, de la flûte traversière en métal. Et puis donc, je me souviens, c'était à Paris, j'ai été à la FNAC, et j'ai trouvé un disque de Pandit Hare Prasad Chaurasia, qui s'appelait La flûte de Hare Prasad Chaurasia. C'était un raga qui s'appelle Yaman, un raga de la fin de la journée. Et je n'y connaissais pas grand-chose à cette musique, mais je l'écoutais. Et puis, à un moment donné, ça me mettait dans un état, ça ouvrait quelque chose dans mon cœur. Ça me mettait dans un état de conscience extrêmement agréable, quoi. Et de fil en aiguille, c'est arrivé un moment où je me suis dit, si ça a une telle valeur pour moi, cette musique, est-ce que je pourrais pas aller l'apprendre, et comment, et même apprendre avec ce musicien que j'écoute là. Et d'ailleurs, Parce qu'avant, j'avais une formation en conservatoire, je jouais de la batterie aussi, et je jouais du Bach, du Telemann, et aussi j'écoutais du rock, je portais un petit peu au jazz, tout ça. Mais à ce moment-là aussi, il commençait à y avoir des djembés et la musique africaine aussi. Et donc, j'ai déménagé dans le sud de la France et j'ai joué aussi avec un rythme, avec un groupe de percussions africaines. Et je me souviens d'un musicien qui ne pouvait pas lire la musique, mais je sentais qu'il avait une compréhension du rythme beaucoup plus profonde que moi, quoi, à l'époque. Et voilà, j'ai découvert qu'il y avait une dimension plus profonde à la musique que ce que je connaissais aujourd'hui et que ce qu'on peut... On a tendance, ça change peut-être, ça dépend avec qui on apprend et tout ça, mais si on va dans un conservatoire, je crois maintenant, on doit faire un an de solfège avant de pratiquer l'instrument, c'est-à-dire on commence par l'intellect et par l'approche conceptuelle, et alors que en Inde, puisque donc après une fois que j'ai fini par aller là-bas et apprendre avec ce musicien qui m'avait tellement inspiré, et ça se passe une transmission en direct, c'est-à-dire on écoute et puis on essaye de reproduire. Enfin, surtout, moi, la manière dont j'ai appris, c'était vraiment se jeter dans le bain, quoi, et écouter les autres. Et quand on commence à comprendre un petit peu, il n'y avait même pas de niveau de première année, de seconde année. C'était pur. Donc, c'est à la fois... c'est pas facile, mais ça permet d'aller aussi vite qu'on peut. C'est un peu comme les aigles là, ou les oiseaux qui ils apprennent à voler. Quand ils sont prêts, ils se jettent dans le vide. Donc, s'ils ne volent pas, ils s'écrasent et ils meurent. Donc là, le risque n'est pas le même. Mais c'est la pédagogie et c'est du direct, quoi. Et donc, le plus on peut recevoir, et ben, le plus on apprend vite. Et c'est par imprégnation aussi. Et puis... Donc c'est voilà, et on dit qu'il faut une vie pour apprendre cette musique. On n'a jamais fini de mûrir et de se développer avec.
Je suppose que pour jouer de ces instruments et la philosophie qu'il y a autour, ça impose une humilité du musicien au point de disparaître, de ne pas être reconnu dans son jeu.
C'est sûr, oui, que c'est pas une musique qui met tellement en avant la personnalité du musicien, puisque c'est un petit peu, on pourrait comparer un acteur de théâtre qui incarne un personnage, il doit devenir ce personnage, donc te mettre en réceptivité totale. Et après, évidemment, son individualité va s'exprimer dans son son, dans son jeu, et c'est les idées qu'il va avoir et tout ça, mais pas de la même manière que si on écrit des chansons ou si on met en avant sa personnalité. D'ailleurs, ça se transforme un tout petit peu, la rencontre, enfin, le fait qu'il y ait beaucoup de musiciens qui viennent jouer en Occident maintenant... Ça a changé d'ailleurs les formats de temps, et puis même les disques aussi, et puis pour répondre aux attentes du public, voilà, on ne peut pas dire, suivant les musiciens, il y en a qui sont vraiment devenus des showman aussi, showmen. Mais dans l'esprit, ça reste quand même effectivement une musique de dévotion, ce n'est pas le seul mode possible, mais enfin avec une ouverture, une musique, surtout dans la première partie, la lap, vraiment où on est à l'écoute de l'âme, quoi, parce que autrement il n'y a pas grand-chose. Si c'est juste quelques notes, quoi. Donc c'est là où ça touche et d'où ça vient qui donne sa valeur à cette musique, quoi.
Alors tout à l'heure, vous nous avez interprété en ouverture un morceau de raga qui est dédié à quel moment de la journée ?
Eh ben de l'après-midi. Ça veut dire à peu près de l'heure qu'il est maintenant. Peut-être pas l'heure à laquelle sera diffusée l'émission. C'était donc c'est pas à la minute
à deux
près,
heures près. À deux
voilà,
heures près.
Voilà, début de l'après-midi, disons.
Vous allez nous interpréter un nouveau morceau pour amener un peu ces déclinaisons.
Oui, bien sûr. Oui. Je pourrais jouer par exemple un peu de ce fameux raga qui m'a fait découvrir la musique indienne que j'aime toujours beaucoup, qui s'appelle Yaman, qui est un raga du coucher du soleil, qui donc approchera peut-être plus de l'heure de la diffusion de l'émission d'ailleurs. Et je vais le jouer avec la même flûte, là, qui est une flûte en fa. Parce que ça, évidemment, dans la musique indienne, il y a des instruments dans toutes les tonalités, et les chanteurs aussi. Mais au passage, qui en général, puisqu'il y a ces fameux shruti, ça serait difficile de jouer de la musique indienne avec un piano, par exemple, parce qu'on ne peut pas... C'est la même touche qui va jouer le ré dièse et le mi bémol, disons. On ne peut pas affiner plus profondément la hauteur de la note. Donc, par contre, un violon, par exemple, ou la voix, ou la flûte, en modulant un petit peu, permet ça. Voilà. Donc, je peux jouer un petit peu de rag yaman. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je peux maintenant donner un petit échantillon de ce qu'on appelle le jor, c'est-à-dire avant que les tablas aient commencé, mais où le rythme s'installe. Quelque chose dont je peux parler aussi, c'est dans le déroulement de, que ce soit dans la lappe ou dans le jor, ou même après dans l'improvisation avec les tablas, en général on commence par par établir les différents degrés du raga par le bas, en s'enracine déjà, et progressivement on va s'élever dans les fréquences. Et lorsqu'on touche l'octave supérieure, ce que je vais montrer là maintenant, c'est ce qu'on appelle l'antara. Eh bien, c'est la sensation, c'est un petit peu comme si on a atteint le sommet de la montagne et on a une perspective, on voit beaucoup plus loin. Et donc l'art, c'est comme une espèce de parade amoureuse pour faire pour donner envie à chaque fois d'entendre les nouvelles notes qui vont venir, c'est pas seulement de jouer les notes, c'est comment on les joue et comment on crée cette atmosphère. Et voilà, donc je donne un petit échantillon de quand on arrive vers l'Antara. Et pour conclure, je vais jouer un petit dans un rythme qui s'appelle Japtal, un rythme à 10 temps aussi, pour donner une idée de ce qu'est la partie avec les tablas. Voici le rythme. Dinna, din, dinna, dinna, din, dinna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Étienne, vous étiez déjà venu au moins l'année dernière. La Drôme, pour vous, est un territoire riche pour expérimenter cette musique ?
Ça, c'est sûr. J'adore le Diwa en particulier. Et j'y suis venu dans le ventre de ma mère, dans un petit vallon perdu, au-dessous de l'Esch en Diwa, que mes parents d'ailleurs ont appelé Shangri-La. Ça se réfère à un roman de James Hilton, les Européens ont perdu, mais qui est un lieu dans l'Himalaya où le temps passe beaucoup plus lentement. Et donc, c'est vrai qu'il y a, un calme, une beauté qui sont vraiment propices à cette musique.
Et donc, tous les ans, ou même la plupart du temps, vous êtes dans le Diwa?
Oui, c'est ça. Je suis en Inde l'hiver et donc je suis ici parce que c'est une maison qui est très rustique à l'ancienne, quoi. Il y a l'eau dehors et tout ça. Par contre, il y a de l'eau en abondance. Et donc, je suis du printemps au début de l'automne, en fait, tous les ans. Et j'y organise des stages aussi. J'ai des élèves parfois. J'ai un ami qui joue des tablas qui habite pas très loin. Il est près de Serres. Et donc, on joue régulièrement des concerts dans le coin.
Vous disiez être musicien. Vous exercez la musique en dehors de cette saison, je dirais.
Eh ben, je joue aussi en Inde. Et puis, j'ai aussi d'autres registres musicaux, de la musique du monde. J'ai touché un petit peu le jazz, même la musique classique occidentale. J'en écoute et j'en joue parfois. Et je compose aussi sur un piano, où je joue un petit peu de guitare parce que je suis sensible au son acoustique aussi et c'est plus facile à transporter que de piano. J'ai un petit clavier. Mais j'ai aussi expérimenté de créer des accompagnements avec des loops. Mais je dois dire que j'ai quand même plus de plaisir et d'inspiration à jouer avec des vrais musiciens et plutôt en acoustique, bien que parfois je reconnais qu'il y a des sons synthétiques qui ouvrent des dimensions intéressantes aussi. Mais pour moi, la musique, c'est ce qui compte, c'est l'état de conscience dans lequel ça me met. Et voilà, et de préférence, la musique qui fait du bien et qui éveille. C'est ça que je préfère, quoi.
Et puis, pour les auditeurs qui voudraient connaître un peu plus ce que vous faites, est-ce qu'il y a par exemple des liens sur Internet ou des moyens de trouver votre musique ?
Oui, je suis sur Facebook avec mon nom Étienne Lauth, L-A-U-T-H, et j'ai une page Suryanil, qui est mon nom d'artiste indien. Surya, c'est comme le soleil, S-U-R-Y-A, N-2-E-L. Ça veut dire le bleu du soleil. Et j'ai aussi, récemment, j'ai fait un blog sur Tumblr, où on peut écouter aussi. Et j'ai des albums aussi qui sont en vente sur ma page Facebook. Et l'adresse Tumblr, c'est Suryanil, donc S-U-R-Y-K-N, attaché, hein, N-2-E-L, point Tumblr, ça s'écrit T-U-M-B-L-R.com. Voilà, et il y a des liens entre les deux aussi, ou simplement en tapant Suryanil, on trouve assez facilement ces liens, je crois.
L'émission s'approche de la fin. Est-ce que je pourrais vous proposer de nous interpréter, puisque cette émission est rediffusée à 7h10 le matin, un petit raga du matin?
Ah, mais très bonne idée.
Oui. Étienne Lauth, je vous remercie d'être venu et nous allons nous quitter sur cet air. Il a un titre.
Je vais jouer un petit peu du rag Bhairav, qui est un autre nom de Shiva, le dieu créateur. Et voilà, donc rag Bhairav, un rag du petit matin. Voilà.
Le concert donc aura lieu le samedi 25 août à 20h30 au château Saint-Ferréol. Un raga du soir qui sera proposé par Étienne Lauth.
Au revoir. Et donc... Rag Bhairav pour terminer, pour commencer la journée pour ceux qui écoutent le matin.
Mm-hmm.